Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Lech Walasa.
Au sommaire ce matin sur Radio Kapi, prévoir pas moins de 3% du budget national de 2024 pour booster la recherche scientifique dans toutes ses dimensions en RDC, c'est la recommandation du président Félix Tshisekedi au gouvernement et au Parlement après le conclave du génie scientifique congolais clôturé hier mardi à Kinshasa. Nouveau massacre à Ituri, 16 morts et des blessés dans un site minier de Kandoui, la nuit de lundi à hier mardi dans les territoires d'Arou. La population a identifié les assaillants comme des miliciens Codeco. 15e sommet des BRICS, c'est la semaine dernière à Johannesburg en Afrique du Sud. Notre invité, le professeur Augustin Mangemossi, enseignant des relations internationales, fait une analyse de ces blocs économiques. Bonjour. Le président Félix Tshisekedi demande au Parlement et au gouvernement de prévoir pas moins de 3% du budget national pour l'exercice 2024 en vue de booster la recherche scientifique dans toutes ses dimensions en RDC. Demande formulée hier mardi à Kinshasa lors de la cérémonie marquant la fin du conclave du génie scientifique congolais. Après 2 semaines d'assises, les 300 inventeurs et innovateurs ont formulé des recommandations. Pascal Masirika revient sur quelques-unes.
Les participants au premier conclave de Kinshasa recommandent notamment de promouvoir l'expertise scientifique, créer une commission interministérielle permettant d'injecter dans l'industrie congolaise les produits d'invention scientifiquement mis au point, élaborer le programme de recherche dans les domaines prioritaires du gouvernement congolais et favoriser en même temps le financement des produits de recherche, promouvoir au pays une culture de la valorisation des résultats de la recherche, créer une agence nationale de la propriété intellectuelle, un ordre de mérite en sciences, innovation et technologie, promouvoir une diplomatie scientifique agissante à travers les missions diplomatiques, accompagner les inventeurs et innovateurs dans le processus de certification de leurs produits ou services, mettre en place une task force pluridisciplinaire comprenant des économistes et des juristes chargés de former, d'équiper et d'accompagner les inventeurs et les unités de production dans la conception de leur business en vue d'optimiser leur rentabilité.
Se confiant à la presse à l'issue de cette cérémonie de clôture, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a rappelé qu'il s'est agi d'une rencontre organisée pour permettre à la RDC de recréer un organe de succession à l'intelligentsia belge qui avait géré l'économie de la RDC avant l'indépendance. Gilbert Kabanda est au micro de Pascal Masirika.
Nous avons voulu que ce soit un conclave pour que la nation, à travers ses inventeurs, ces chercheurs et autres puissent se rendre compte qu'elle a des potentialités de se prendre en charge pour son développement. Je suis satisfait du résultat parce qu'il n'y a pas de recherche sans argent. Dès lors que la volonté politique du président de la République et du gouvernement est qu'on passe d'un budget de 0,5% à un budget de 3%, et de ces 3%, progressivement on passera à des taux plus digne pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Après ça, nous aurons des forums, nous aurons des congrès de l'intelligentsia congolaise que le ministère de la Recherche scientifique va organiser. Je ferai en sorte que chaque année, il y ait présentation à la population de ces nouvelles acquisitions dans le domaine de la recherche et de la science.
Controverse autour du partenariat entre la RDC et le groupe émirati Primera Gold qui a donné naissance à la joint venture Primera Gold RDC. Le gouvernement assure que c'est une stratégie mise en place pour lutter contre le trafic illégal des minerais de la RDC vers le Rwanda, mais aussi une manière de gagner en termes de traçabilité des minerais. C'est le ministre des Finances qui l'a dit, c'était au cours du briefing hebdomadaire qu'organise le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, chaque lundi. Nicolas Kazadi réagissait aux déclarations du député et avocat Alfred Maïcha qui accuse 3 ministres d'avoir accordé le monopole d'achat, de commercialisation et d'exportation de l'or artisanal de la RDC et des 3T pendant 25 ans à Primera Gold à un coût dérisoire. Fulbert Balolagué nous en parle.
Alfred Maïcha accuse la ministre des portefeuilles, la ministre des mines et celui des finances d'avoir signé ses partenariats avec Primera Gold à un prix dérisoire, ce qui pour lui prouve la mafia derrière ces contrats.
Il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi ? À cause des 11 000 $, les trois membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible.
De son côté, le gouvernement congolais reste convaincu que ce contrat est une stratégie pour récupérer sa souveraineté économique et il n'y a aucune mafia derrière, comme le dit Nicolas Kazadi, ministre des Finances.
Nous sommes dans une opération hautement stratégique de blanchiment de l'approvisionnement en or en provenance de la RDC et à destination des Émirats Arabes Unis. Mais nous maintenons le cap parce que nous sommes sûrs qu'il s'agit d'une opération tout à fait transparente dans l'intérêt du pays. Au contraire, c'est une opération anti-mafia et nous défions quiconque d'aller chercher une quelconque mafia dedans.
André Wameso, directeur du cabinet adjoint du président de la République en charge des finances, explique que ce contrat permettra la construction de 2200 km de route, la réhabilitation des deux aéroports et la construction d'une centrale électrique.
Parlons du droit des affaires. À présent, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a ouvert hier mardi à Kinshasa la 55e session des ministres de la Justice de l'OADA. Ministres et délégués des 17 pays membres participent à cette session pour honorer les trois décennies d'engagement envers l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. C'est aussi pour tracer une voie vers un avenir pour la convergence juridique et la prospérité économique des pays membres. Rose Mouton, ministre d'État en charge de la justice, circonscrit les points à l'ordre du jour de ses assises, notamment l'évolution du processus des révisions du traité OADA, l'examen du processus d'élaboration du statut des juges de la Cour commune des justices et d'arbitrage. La ministre congolaise est au micro de Jeff Ngoy.
Au cours de cette session, nous allons examiner plusieurs points cruciaux inscrits à l'ordre du jour, reflétant notre engagement collectif à renforcer les cadres juridiques dans lesquels nos économies opèrent et améliorer la gouvernance au sein des autres organisations. Il s'agit notamment du projet de modification de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Cette initiative témoigne de notre engagement à rendre le processus de recouvrement plus efficace et plus transparent, ce qui est essentiel pour garantir la confiance dans nos systèmes commerciaux. Nous allons par ailleurs faire le point sur l'évolution du processus de révision des traités de l'OADA, une étape cruciale.
Je voulais annoncer dans les titres, l'Ituri pleure des nouveaux morts. 16 morts et 12 blessés. Bilan encore provisoire de l'incursion dans la nuit de lundi à hier mardi d'hommes armés identifiés par la population comme des miliciens de la Codeco. Nous sommes au village des Kandoï, à 120 km d'Arou Centre. Des sources locales renseignent que des creuseurs artisanaux retrouvés dans les sites miniers des Chabas figurent parmi les victimes. Les miliciens auteurs de ces massacres ont pillé plusieurs biens et incendié une vingtaine de maisons. L'armée affirme qu'elle est à pied d'œuvre pour traquer les groupes armés qui troublent la quiétude de ces territoires. Ézéchiel Mouzalia.
Lundi soir, vers 20h locales, un groupe d'hommes armés de fusils et d'armes blanches surgissent dans les carrés miniers de Chaba, à 18 km du centre des négoces de Kandoï, dans le territoire d'Arou. Des tirs nourris venant de toutes les directions retentissent. C'est la débandade totale. Le bilan provisoire avancé par diverses sources locales parle de 14 personnes abattues, soit 3 femmes et 11 hommes qui se trouvaient pour certains sur les sites et pour d'autres dans leur logis. 12 blessés ont été acheminés dans des structures médicales de la place et d'autres personnes ont été prises en indique les mêmes sources. Des sources concordantes dans la région déplorent la faible présence des militaires sur place, ce qui, selon elles, n'a pas permis de limiter les dégâts. Cette attaque a provoqué un déplacement des populations du village Alou qui ont trouvé refuge dans les entités voisines telles que les Boulou et Kandoï Centre. Des sources proches de la milice Codeco rejettent la responsabilité de cette attaque et promettent de communiquer ultérieurement sur cet énième drame. L'armée indique que des efforts sont consentis pour retrouver les vrais auteurs de cette tuerie et les poursuivre en justice. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle au Nord Kivu, des centaines de familles des déplacés et sinistrés de la dernière éruption du volcan Nyiragongo logés dans différents sites du territoire de Nyiragongo appellent au secours. Selon eux, les dernières bâches reçues en assistance il y a plusieurs mois sont déjà en lambeaux. À la veille de la saison des pluies qui s'annonce, ils redoutent être confrontés aux intempéries. Bernardin Nyangi.
Dans le site de Kayembe, par exemple, si les milliers de déplacés et sinistrés nécessitent une assistance en vivres, ils présentent un besoin encore plus urgent d'abri aménagé. Témoignage.
Quelques familles avaient été délocalisées. Nous qui sommes restés dans ces sites, nos bâches ont vieilli. Nous savons à quel sens elles sont. Les dernières bâches, nous les avons réceptionnées depuis plusieurs mois. Elles ont vieilli. Si la pluie arrivait, il y aura des problèmes.
Après plus de 10 mois sans assistance, le coordonnateur de l'association Action d'animation pour le développement des paysans à Kadepa fait un plaidoyer pressant. Bosseni Bamwe, Etienne.
Les sites de Kayembe, Kanyauchinya, Kibati, les signes de la pluie sont observés. C'est pour cela, demandons au gouvernement et ses partenaires pour qu'ils puissent disponibiliser des bâches.
Contacté, le chef de service provincial de protection civile affirme que c'est un problème général. Pour Joël Ndagana, les humanitaires poursuivent les plaidoyers pour assister ces déplacés. Pendant ce temps, Ocha, ajoutait-il, planifie déjà la distribution des 180 tonnes de vivres et de non-vivres qui arrivent déjà à Goma dans le cadre du deuxième pont aérien de l'Union européenne. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Pour réussir la sensibilisation et la démobilisation des combattants ADF, l'ONG Bridge Joy Foundation, qui s'implique dans la sensibilisation des combattants ADF à la reddition, mais aussi leur accompagnement psychosocial, indique qu'elle se base sur deux principales stratégies. Le partenariat avec les communautés à travers les comités locaux, Ukweli, et des missions des bons offices entre les communautés locales et les forces de sécurité dans la région où se trouvent les ADF. Cette organisation accompagne également le rapprochement entre différents pays concernés par les mouvements de ces rebelles. Nous poursuivons ainsi la diffusion d'une série de reportages sur les processus DDR et déradicalisation des combattants des ADF débutés le lundi matin. Sifa Maguru.
Il s'agit d'arriver à convaincre les combattants qui veulent se rendre qu'ils ne seront pas victimes de la vindicte populaire, qu'ils ne seront pas sanctionnés ou arrêtés par les services dans la mesure où il a été recruté par contrainte pour la plupart. D'après des études menées par Bridgeway, le phénomène ADF est basé sur l'extrémisme violent et ses ex-combattants nécessitent un vrai lavage du cerveau, les suivis et une prise en charge psychosomatique, mais surtout la déradicalisation. Pendant cette période de leur formation, ces personnes reçoivent des enseignements pour leur permettre d'acquérir à nouveau de bonnes valeurs en vue de leur insertion dans la société. Pendant ces enseignements, par exemple, on leur montre que la religion musulmane enseignée par les ADF n'est pas la bonne. L'islam, en réalité, prône l'amour, la cohabitation pacifique et autres valeurs. Et pour contraindre l'idéologie des ADF, les ex-combattants apprennent également la résolution pacifique des conflits. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Au procès du député Edouard Mwangachuchu, la défense du prévenu a plaidé hier mardi pour l'acquittement pur et simple de son client, dont il clame toujours l'innocence. Elle a attaqué devant la haute cour militaire tous les arguments du ministère public en développant ses moyens sur le plan du droit. Selon les collectifs des avocats, le ministère public n'a pas prouvé ses accusations contre les députés qu'il présente comme quelqu'un à qui l'on veut faire porter tous les péchés des Tutsis sur l'insécurité dans l'est de la RDC. La haute cour militaire va le vendredi prochain recevoir enfin les plaidoiries de Robert Mouchamaliroi, le policier co-accusé de Mwangachuchu pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et détention illégale d'armes de guerre. Va-t-on vers l'éradication de l'épidémie de la rougeole dans la zone de santé d'Oïdja, dans les territoires de Bénin? Selon Archip Koulé Kiusa, l'infirmier superviseur chargé de la surveillance épidémiologique dans cette zone de santé, les cas notifiés ont sensiblement baissé ces deux derniers mois, contrairement au mois précédent où l'on enregistrait facilement plus de 100 cas. Cette amélioration est les résultats des deux campagnes de vaccination organisées en février et mai dernier. Archie Pekule Tiusa explique au téléphone de Guylaine Kassassia.
Après les deux ripostes, c'est-à-dire pour le mois de février, à part ça, il y a le gouvernement qui a organisé aussi la riposte toujours contre la rougeole au mois de mai. Vous allez comprendre que au mois de juillet, nous avions enregistré 26 cas et pour le mois d'août ici, nous sommes à 24 cas. Alors, selon nous, nous pensons qu'il y a une nette amélioration puisque les cas ne sont pas en train d'être notifiés comme avant les deux campagnes de riposte. Et aussi, ceux qui se présentent avec les signes de rougeole, à 90%, ce sont des gens qui sont hors cible, dont l'âge varie entre 10 et 46 ans. Ces gens n'étaient pas vaccinés. Et à plus, quand on investigue les cas, ce sont des retournés. Comme nous avons pris cette stratégie de vacciner, nous pensons que d'ici là, on doit mettre un fait à cette épidémie qui est dans la zone.
Actualité internationale.
Une initiative en 6 chapitres pour la paix au Niger en 6 mois, voilà ce qu'a proposé ce mardi le chef de la diplomatie algérienne. Devant la presse, Ahmed Attaf a développé cette initiative annoncée par le président algérien Tebboune qui ambitionne une résolution pacifique de la situation dans le pays après le coup d'État.
L'invité.
Notre invité est le professeur Augustin Mangé Mossi. Cet enseignant congolais en relations internationales fait une analyse sur les BRICS. Sur les BRICS, c'est ce bloc économique est composé des 5 pays membres au départ et qui vient d'enregistrer l'entrée des nouveaux États. C'était la semaine dernière lors de son 15e sommet qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Le professeur Augustin Mangé Mossi s'entretient avec Merveille Hassani.
Bonjour, professeur Augustin Mangé Mossi.
Madame, bonjour.
Le 15e sommet de BRICS s'est clôturé la semaine passée et la RDC était représentée par le Premier ministre Samalou Kondé. Professeur, tout d'abord, c'est quoi le BRICS?
Ouais, le BRICS, c'est un acronyme qui désigne le rapprochement des 4 grands pays avec des vastes territoires, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, auxquels s'est ajoutée depuis 2011 l'Afrique du Sud.
Alors, le BRICS suscite un certain intérêt pour beaucoup de pays, notamment les pays africains. L'Égypte, l'Éthiopie sont admis dans ces groupes. Est-ce que la RDC peut-elle aussi avoir de la place dans ces groupes?
Disons que la RDC a sa place dans les BRICS. Le problème, c'est plutôt est-ce qu'il faut y aller ou plutôt il faut construire un pont entre les BRICS et le G7, parce que la RDC est appelée plutôt à fédéraliser les deux modèles ou les deux visions du monde au lieu d'aller se faire adopter dans une organisation qui, peut-être s'il y a conflit ou il y a antagonisme, nous risquerons de tirer les conséquences fâcheuses.
Peut-on parler d'une rivalité entre le BRICS et le G7 à court terme ou à moyen terme?
Madame, il y a déjà une certaine rivalité. Quand vous voyez la construction des BRICS depuis 2003, ok, et l'élargissement de 2023, des 5, ils seront maintenant au nombre de 11 en 2024, le 1er janvier 2024, vous verrez déjà qu'il y a ce qu'on appelle un quart de la richesse mondiale, d'un côté, 31,5%, du PIB contre un tiers de la richesse mondiale de l'autre côté, 30,7% des G7, il y a déjà un antagonisme, il y a une rivalité tant sur le plan économique que sur le plan stratégique. Que nous le voulions ou non, nous avançons vers un monde décomposé, malheureusement, à cause du désordre mondial institutionnel. Nous assistons à une certaine émergence des pays qui ne veulent plus tolérer ce que l'Occident a essayé d'imposer au système international. Donc ils veulent créer un nouvel ordre mondial partant du multilatéralisme.
ce qui fait déjà qu'il y a antagonisme, il y a rivalité. Donc nous n'avons pas besoin de dire qu'il y en a ou il n'y en a pas. Il y en a déjà. Il faut plutôt à la partie congolaise de pouvoir se chercher à fédéraliser les visions pour son intérêt propre au lieu de choisir un camp.
Professeur Augustin Mangemossi, Radio Okapi, vous remercie.
Voilà, c'est par cet entretien entre les professeurs Augustin Mangemossi et Merveille Hassani que nous mettons un point final à cette édition du journal. Pelé Kipela Mondo a supervisé ce journal. Merci de l'avoir écouté.